Il bouge et agit, mais intérieurement ne renferme aucune entité maîtresse. Pour le corps, il en va de même. Ce n'est qu'un agencement de peau et d'eau qui tourne au vent de la pensée, naissant et périssant d'instant en instant. Il est impermanent, vide et apaisé. Personne n'agit, personne ne maudit, personne ne subit d'insulte, car, du début à la fin, il y a vide absolu. Ce qui vient des causes et des conditions à chaque instant n'est rien. C'est l'être, c'est la présence, mais il n'est pas maître de lui. Il dit le corps tourne au vent de la pensée. Et de fait, c'est vrai que selon la qualité de la pensée à chaque instant, c'est ça qui détermine le corps futur et l'environnement futur. Donc dire que le corps n'est qu'un agencement de peau et d'eau qui tourne au vent de la pensée, naissant et périssant d'instant en instant, c'est pas. C'est ce qui se passe. N'ailleurs, je dis ça. Et ensuite, oui, c'est ça. Puis sinon, si c'est là une pensée telle qu'elle de l'être humain ordinaire, comme ça une pensée est l'aboutissement du passé, il reproduit, il est le même dans le même, cloué au sol. C'est pareil. C'est pas de plus. Comme son caractère reste le même, il revient avec ce qu'il est toujours. Il est avec ce qu'il est, il revient avec ce qu'il est dans le temps. Aussi, oui, bien sûr. On va la chose. Que cela ne tienne. Alors, Parménide, toujours. Ah ouais, il dit. Toujours donc, ce mannequin désorienté qui est le corps, tout ça, comme Nagarjuna disait. Parménide dit, à propos des humains, l'embarras qui est dans leur poitrine fait courir droit devant une pensée errante. Ils se laissent porter, aussi muets qu'aveugles, effarés, race sans discernement. En fait, à chaque instant, la pensée jaillit du corps, donc leur pensée est jetée droit devant, ils parlent, ils courent, ils vont dans tous les sens parce qu'ils ont peur de ceci. Fragment 6, première page. Donc ils voient les humains comme ils se laissent porter par leur pensée qui naît à chaque instant, mais ils sont effarés, aveugles, race sans discernement. Bien, à mon avis, moi, c'est quand même très clair. C'est quand même très bien comme ça que ça se passe, il faut dire. Et Nagarjuna, à ce propos, dira, enfin, Shakyamuni, plutôt, bon, genre humain et pareil dans la pensée, jeté droit devant comme ça, tu as le nez. Shakyamuni dit, plus abondant que l'eau des quatre grandes mers sont les larmes que vous avez versées, et répandu, tandis que durant un temps si long, vous erriez dans les naissances et les morts, gémissant et pleurant d'être unis avec ce qu'on n'aime pas, et d'être séparés avec ce que l'on aime. Mais il dit, les pleurs de la séparation, les pleurs que l'on a versées sont plus importantes que les quatre mers. Et il dira aussi pareil pour le lait qu'on a bu. Il dit, la somme de lait bu par l'humain est supérieure à la somme des quatre océans. Il dit aussi, le sang versé par l'humain, pour diverses raisons, est supérieur au volume d'eau des quatre océans. Il dira aussi que nos squelettes, de vie en vie, entassés, sont supérieurs aux mouches nues. Donc, il s'agit bien, comme disait Parménide, ils se laissent porter aussi muets qu'aveugles avec la pensée qui jaillit, et puis ils sont comme des cons, ils ont peur, ils veulent ceci, ils veulent cela, ils regrettent. Il pense que, et ouais, puis c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, il n'y a pas d'issue, aucunement.
Oui.
Oui.
J'ai plus de mal à, penser que c'est évident de faire personne.
Pas personne, ouais. Plus généralement, personne ne pense ça. Oui, bien sûr. Donc, c'est tout. Oui, bien sûr. Mais aussi, donc,
moi, c'est très fort. Là, je veux dire, on va passer des événements, donc, c'est possible, on peut effectivement penser à la génère. Mais en fait, il y a vraiment des grands événements, donc,
il y a le tsunami,
oui, puis même,
la Shoah, mais
c'est pas mal. Et puis, les informations sur cette crise, j'ai du mal à comprendre cette production-là.
Oui, parce que nous, on voit l'événement, la voiture, il n'aurait pas dû boire, ou c'est autre qu'elle est pétée, qu'il a rendu. D'accord. Donc, il y a plein de bonnes choses, mais qu'il tombe à cheval lors d'une chasse royale, ou qu'il tombe dans une mine et meurt d'un coup de grisou, n'importe quoi, c'est pareil, c'est quelque part. Nous, on verra des distinctions de la manière dont les choses se produisent, mais en réalité, à travers naissances et morts successives, il y a toujours un vouloir abandonner sa vie à un âge ou à un autre. Il est des êtres pour qui la vieillesse n'existe jamais. Qui meurt toujours à 35 ans, qui ne voit pas la vieillesse comme un... Où il y a des êtres pour qui la vieillesse sera toujours là, parce qu'ils seront malades, parce qu'ils ont été enchaînés, parce qu'ils auront vécu ceci, cela, qui fait que pour eux, la jeunesse n'aura jamais été vécue. On pourra dire que les conditions ont changé tout le temps, mais c'est faux. Nous, on verra des conditions distinctes, alors qu'en réalité, il y a une même demande qui amène les mêmes choses.
Ouais, par rapport à ça, moi, je suis un mal fou. Dans les causes collectives, comme l'extermination des Suisses, par exemple, tu vois.
Oui, bien sûr.
C'est un mal fou.
Nous, on voit un génocide avec une intention. On dit, c'est salaud, il
fait parlons de ça, parlons des 21, parlons de ça.
Bien sûr, toujours, bien sûr. Mais ça n'existe pas. Comme on avait dit, il n'y a rien, personne ne me maudit, personne ne me blesse. Ça n'existe pas. C'est ce que l'humain voit, mais c'est faux.
Non. Tous les Juifs voulaient être
acceptés. J'ai du mal avec ça.
Mais
moi, c'est vraiment du mal.
Sinon, si jamais toi, c'était ta vie, tu serais né là-bas, tu serais mort là-bas. Il n'y avait aucun problème. Qu'est-ce qui fait que tu nais à un autre endroit ou 20 ans après? Qui est-ce qui décide ça? C'est juste ton vouloir à toi, c'est tout. Et évidemment, un avion qui s'écrase avec 3 survivants et 30 morts, évidemment, c'est leur truc à eux. En plus, ça a une grande importance. Si tu veux. Toujours, tu peux avoir le sentiment d'échapper à des catastrophes, ou toujours tu peux penser mourir dans une catastrophe. Il y a de tout. Mais il n'y a pas d'acteur. Il n'y a pas d'acteur qui décide.
Tu vois, un mec comme Hitler, il n'est pas acteur.
Non, bien sûr que non.
Il subit
son corps. Évidemment. Puis avec Eva Braun, il faisait tout pour être heureux, je présume. Comme Pinochet, on dit actuellement Sharon lutte pour la vie. Et c'est complètement con.
Lui qui a massacré de tant de gens.
Et même si on le canonise, il part avec ce qu'il montre. Pour ceux qui savent lire, bien sûr, d'autres diront au plein malheur, mais bon, ceux qui savent voir, pourront voir que ce qu'il montre maintenant, ça n'arrête jamais. Il y a plein de manières de mourir.
Pardon pour les Juifs, par exemple, pour la Shoah, etc. La souffrance, elle est la même pour Hitler que pour les Juifs.
Parce entre une femme qui sort d'Auschwitz en ayant perdu ses deux gosses et une femme qui sort de la maison et la maison s'écoule au Pakistan, les deux gosses meurent, lequel est le mieux? Toujours tu peux perdre tes deux enfants quelque part. Alors, un moment tu diras c'est à cause de la poutre qui est tombée, un jour tu diras c'est à cause des Allemands, mais c'est sûr, il y aura toujours un à cause. Mais ce qui touche toi en tant que la perte des tiens dont tu es privé et qui te font pleurer autant que la mère morte, c'est toujours ce que tu dis. Toujours.
Mais dans le livre, il y a quand même la notion de respect de la vie.
On y arrive. Non, il dit, ce qui naît des causes et des conditions, donc tout, n'est pas respectable. Non, parce que ça a toujours été comme ça. Parce que l'individu n'est pas décisionnaire. Il n'y a pas de respect à avoir. Il n'y a pas de liberté. Donc il y a toujours avidité, orgueil, stupidité, enfer. Il y a toujours ça. On peut pas couper ça. Il y a.
Il ne peut pas y avoir de...
Oui.
En tout cas, bon, par exemple, si tu passes des Juifs, ou bon, par exemple, des Italiens, etc., quelque part, c'est normal de faire ça. Ça vient de la connerie des gens.
Ah, on peut pas, il y a toujours.
Ça vient de la connerie des gens.
C'est ce qu'on appelle les six voies, hein. Le cycle des six voies qui est fermé. Donc c'est enfer, avidité, animalité, colère, joie, tranquillité. Le plus haut est à la joie.
C'est les états de vie, je veux dire, qui génèrent ça.
Tout le monde vit ça. Oui, bien sûr.
Qu'ils soient bourreaux ou victimes.
Il y en a autant de proportions.
Et il y a toujours eu. Et c'est partout.
C'est la même galère pour les bourreaux et pour les victimes.
C'est pareil. Ouais. Non, on peut considérer aussi qu'ils peuvent être victimes sans avoir été bourreaux. Quelque part, c'est
pareil. Oui,
à l'œil, tu verras que c'est pas pareil.
Amoureux, c'est la vessie, un peu.
Elle est
la victime, alors. Et Chirac, c'est pas un imbécile, pourtant il est pas bourreau.
Si, c'est un imbécile.
Oui, c'est
ce que je veux dire.
C'est grave pour eux que pour les vieux. Le gros s'en fout. C'est une force aveugle.
On peut faire des distinctions,
t'as une force aveugle. Face à une conscience, quand on prend la corrida, par exemple.
On peut établir des préférences.
Oui,
bien sûr, on peut dire ça c'est mieux que ça, mais donc on peut privilégier.
C'est plus difficile, c'est plus. C'est plus douloureux, et est-ce que dans la douleur il y a une lucidité
Moi je trouve que là c'est
le. Ça veut pas dire grand chose.
On peut privilégier l'état humain en disant que c'est le mieux de la création, comme ça. Nietzsche dit, l'être humain ne peut pas descendre du singe parce que le singe est trop bon pour ça. C'est pas faux non plus. C'est pas faux. Parmi les humains qu'on peut privilégier en tant que race humaine, il y a des abrutis qui, juste après leur passage, retournent chez les animaux. Comment on juge-nous que ceci est un bourreau, ceci est bien, ceci est mal? Mais on peut dire globalement que l'humain, qu'est-ce qu'on peut dire de l'humain? Il a deux pieds. Il pense. Il n'y a pas de. Qui on fera des distinctions.
Vous voyez que chaque seconde de vie,
si on pratique.
Voilà, mais quand on pratique, c'est vrai qu'on ne va pas.
Quand
on pratique, on va automatiquement arrêter de
tuer des gens.
Je ne sais pas, j'imagine pas quelqu'un qui pratique qui va devenir un mec comme Hitler et tout.
Non, mais tu peux tuer quelqu'un en voiture parce qu'il a pas vu.
Voilà. C'est effectivement provoquer des
choses comme ça,
sans vouloir.
On continue.
En règle générale, quand on pratique, on est quand même. Ça, c'est pas le respect de la vie, je sais pas comment on peut dire. Si, quand même.
Oui, mais maintenant.
Voilà, c'est ça.
Tu vas pas dire les
bavardions. Il y a des humains qui font des choses pour les autres, qui essaient de faire des groupements pour aider un tel machin, et ça c'est louable.
C'est une valeur relative.
C'est une valeur relative, mais qui tend vers un mieux, qui tend vers l'omission de la loi et l'accès à la modalité. Donc bien sûr qu'il y a des êtres qui montrent, en toute leur conduite, une propension à... Les femmes, par exemple, sont beaucoup plus respectueuses de ce qui est que les humains, que les mâles. Donc globalement, on peut considérer que la femme a plus de sensibilité, de respect, de protection, d'abnégation aussi, parce que les femmes et les mères, donc on peut dire ça aussi, bien sûr. Donc il y a comme une propension à un plus qui sera amené par la pratique de la loi. On peut bien sûr pas
dire que c'est la diversité, regarde les limites de l'été.
Mais ça vaut ce que ça vaut,
tu vois. La femme, c'est le monde, elle devient morte.
Oui, bien sûr,
mais ça rend la femme.
Donc cela est très relatif, oui. Mais on peut mettre des distinctions, parce que pas cette... ça n'a que peu d'importance, en fait. Donc alors, dans l'enseignement du Bouddha, il est dit, la meilleure loi dit, à propos donc de ces êtres qui trouvent partout et leur pensée qui est jetée devant eux comme ça de leur poitrine, il dit, si l'on n'éclaircit pas le lieu merveilleux d'une pensée 3000, comment pourrait-on donc dans l'un appréhender le tout? Les 3000 phénomènes ne s'étant pas affranchis de l'obscurité d'une pensée, ne nous trouvons que des causes et des effets douloureux. Tant qu'un individu ne s'éveille pas au fait que sa pensée n'en est pas maître, tout ce qui fait ne sont que des causes et des effets douloureux, qui entraînent de la souffrance. Autrement dit, il n'y a que le fait de s'éveiller qui est l'arrêt réel des souffrances. Tant que le lieu d'où jaillit la pensée à chaque instant n'est pas perçu, et qu'un individu s'en croit décisionnaire et maître, tout ce qu'il fait ne sont que des causes et des effets douloureux. C'est ce que dit Miao le 7e siècle après J.C. Et aussi, il persévère en disant, il parlera de réalité et d'irréalité. Donc il dit, le provisoire, donc ce qui est irréel, le provisoire, ce sont les êtres. Par contre, dit-il, le réel, c'est les cinq ombres et les territoires. Donc les cinq ombres, c'est le corps et la pensée. Et le territoire, c'est ce que l'on voit. Donc il dit, ce qui est réel, c'est qu'il y aura toujours un corps, une pensée et un monde objectal qui va apparaître. Toujours il y a ça. Par contre, ce qui est irréel, c'est les êtres. Parce qu'ils naissent et disparaissent. Mais on aura toujours comme réel le fait d'avoir un corps et de percevoir des objets qu'on pourra nommer. C'est ce que dit Miao. C'est ce que dit également donc le Bouddha originel. Le provisoire, ce sont les êtres. Le réel, c'est le corps et la pensée momentanée et ce qui est perçu. On ne peut pas se départir du fait de percevoir un objet visuel, tactile, politique, tout ce que vous voulez. Donc,
à quoi sert l'incarnation?
Mais c'est pas à quoi elle sert. Il ne peut pas ne pas y avoir. Il y a toujours. C'est un constat. Donc on y vient. Alors là, il dit, dans l'école Tiantai, toujours, le sens de l'enseignement parfait est que, dans l'aspect de ce monde apparaissant, disparaissant, s'écoulant et mouvant, la réalité est immuable. Dire qu'il n'y a pas de permanence parce que l'homme naît et meurt, et que les choses périclitent et se transforment, est entièrement une vision illusoire. Donc, l'enseignement du Tendai dit, tout est absolument immuable. Tous les phénomènes sont absolus, sans commencement ni fin. Voir apparaître et disparaître pour les êtres humains, ça c'est le propre des personnes qui ne pratiquent pas. Ils sont engoncés dans les voies extérieures, qui parleront du passé, du présent, du futur, du machin, de ceci, de l'espace. Ça c'est la fumisterie. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Aussi, le souverain de la loi dit, l'ex-souverain de la loi, sinon pour que je me fasse à l'idée. Pour la logique de ce monde, comme pour la logique des gens qui pratiquent en général, la présence permanente de la loi est relativement facile à comprendre. Et tous les humains sont comme ça. Tous les humains peuvent penser que la loi à laquelle s'éveille le Bouddha est permanente. Donc l'idée, c'est que la loi est, le Bouddha s'y éveille, s'y éveillant, la loi est antérieure au Bouddha. Et donc, tous les sutras bouddhiques disent que la loi est permanente. Elle est. Il dit, par contre, le souverain de la loi dit, par contre, la présence permanente de ce corps, tel quel, est difficile à saisir. Pour le moins. Donc, il dit, la présence permanente du corps de la loi est évoquée dans tous les sutras. Par contre, la présence permanente du corps physique, elle, n'apparaît nulle part. Chacun pense que son propre corps disparaîtra immanquablement. Pourtant, dans le lotus qu'on lit matin et soir, il est dit « Je suis toujours présent ici en ce monde et j'enseigne la loi. » Tout est comme ça. Tout est toujours présent en ce monde à vivre sa propre réalité. Toujours, toujours, toujours. Et aussi, le souverain de la loi, Nikan Shonin, dit que Ziyi, en Chine, pratiquait, et à un moment, donc, il parvint au premier degré de station. Donc, on voit tout à l'heure, c'est-à-dire que là, il n'y a jamais de régression. Il dit, grâce aux œuvres et vertus de la loi qu'il pratiquait, il obtint pour la première fois la compréhension que sa vie demeure éternellement. C'est ça, le premier degré de station, de non-régression. C'est percevoir que sa propre existence ne peut ni apparaître, ni disparaître. D'ailleurs, Dai Shonin dit, les souffrances de la vie et de la mort ne peuvent disparaître que lorsqu'on réalise que l'entité de la vie humaine ne peut ni apparaître, ni disparaître. Dans la doctrine, c'est clair. Mais aussi, pour la fine bouche, Nikan Shonin dit que les disciples de Shakyamuni, lorsqu'ils ont entendu prêcher le Sutra du Lotus, le chapitre durée de la vie, eh bien ces disciples se sont éveillés à l'identité de la loi merveilleuse du passé infini et de leur propre vie à eux. Là réside l'aspect de l'éveil dès ce corps, identique à la fleur de lotus, substance de la loi merveilleuse où la cause et l'effet sont simultanés dans l'or du temps, hors du temps. Ça, le fondement de la doctrine, c'est que la cause et l'effet sont simultanés, mais sont hors le temps.
Dans le temps, c'est que...
Le temps n'existe pas.
Dans le temps humain.
Ouais. Dans le temps humain, c'est que l'effet. Mais la cause et l'effet sont simultanés dans, en étant en dehors du temps, mais toutes les existences sont en dehors du temps. Tout ce qui est existant est en dehors du temps. Schopenhauer avait dit, le noyau de notre être n'est pas dans le temps. C'est vrai. Il dit, vu ce que je suis, j'ai toujours existé, et j'existerai toujours. Le seul problème, dit-il, c'est que ça fait deux infinités. J'ai toujours existé dans le passé, j'existerai toujours dans le futur. Il dit donc, ça fait deux infinités pour une seule personne. Il dit, probablement, le défaut réside dans le moi. Bien sûr. Dans ce petit moi égotique, qui, les chauds, j'ai froid, j'aime pas, demain j'irai pisser. C'est ce petit moi égotique qui est là, comme ballotté par les vagues, et qui, lui, ne comprend pas que l'infinité phénoménale est lui-même. C'est ça le problème. Mais donc, Schopenhauer avait bien vu qu'en fait, nous sommes hors du temps. Donc, c'est ce qui est dit également là. Nietzsche disant que c'est ça l'éveil, l'aspect de l'éveil des ce corps, identique à la fleur de lotus, donc identique à la cause et l'effet simultanée, où la cause et l'effet sont simultanés dans l'or du temps, hors du temps, évidemment. Tel est ce qui est enseigné. Et donc, tout simplement, donc, il est dit, l'esprit et la vie momentanée emplissent le monde des phénomènes. C'est ça qu'on peut pas percevoir. À chaque instant, notre vie emplit le monde phénoménal. Comme disait Parménide, hein, le phénomène apparaît à travers tous les phénomènes. À chaque instant, notre vie est liée à l'infinité phénoménale. Toujours, toujours, toujours. Ça n'a jamais été autre. Donc, en soi, il n'y a pas de temps ni d'espace. Ce n'est que la qualité. Or, la qualité n'est pas une manière de penser, la qualité n'est pas un plaisir, la qualité c'est l'acte du corps. Or, il n'est que la production de l'éveil qui soit la qualité de l'acte du corps. Pour le reste, on ne peut rien faire. Il n'y a que la pratique.
Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la chaleur, etc., en fait, finalement, le Bouddha, je ne fais pas de différence entre un juif qui s'est exprimé dans un camp, ou un clair, ou un cela. C'est la différence entre les éveillés, les êtres éveillés et les êtres non éveillés.
Puis.
Il n'y a pas.
Il n'y a que les six voies pour le Bouddha.
Soit t'es dans les six voies, soit t'es dans l'éveil.
Il n'y a que les six voies. Et en dehors des six voies, donc dans les six voies, on dira que les êtres ne sont pas des êtres vivants. Parce qu'ils n'ont pas le principe en eux-mêmes de leur existence. Ils subissent physiquement, leur corps s'impose à chaque instant, ils subissent mentalement ce que les pensées s'imposent, donc là c'est un cycle où en fait, avidité, animalité, colère, joie, tranquillité, tout ça se mélange. Mais il y a le hors les six voies, et là ce n'est que le propre de l'enseignement du Bouddha. Donc dès le premier état, le septième état, Shōmon, c'est entendre. Entendre quoi? La voix du Bouddha. L'enseignement du Bouddha. Ce qui permet de quitter le monde des six voies, c'est d'entendre le son. Pratiquant, tu entends. Donc c'est encore le son. Et puis, par exemple, moi j'avais vu un truc un jour dans un vieux texte bouddhique où il est dit que, avant le nirvana, les disciples haut de gamme bondissent dans l'espace et déversent des torrents de feu et des torrents d'eau de leur corps. Avant d'entrer dans le nirvana. Et je lui disais, décidément, le Mahayana a des images qui sont quand même assez rares, somme toute, parce qu'on voit rarement, nous, dans le métro, quelqu'un sauter à 30 mètres, puis faire jaillir du feu et de l'eau de son corps. Pourtant, si on regarde bien, l'eau, c'est quoi? Ce sont les difficultés extérieures. Le feu, c'est quoi? Ce sont les troubles intérieurs. Autrement dit, avant d'entrer dans le nirvana, toutes les difficultés qui semblaient venir de l'extérieur sont rejetées comme l'eau, des difficultés dans lesquelles on s'enguise ou on se noie, Et le feu qui était rejeté, c'est le feu des troubles intérieurs qu'il rejette parce qu'il atteint l'éveil. Donc de ce point de vue, on peut considérer qu'il rejette les troubles en tant que feu, en tant que eau, et atteint le nirvana. C'est concevable comme ça. Et ça, c'est notre pratique à nous. On pratique matin et soir, et au fur et à mesure, aussi bien les difficultés jugées comme étant extérieures ne nous blessent plus, aussi bien les difficultés intérieures, le feu de l'orgueil, de la colère, de la stupidité, de l'ignorance, machin, ces choses-là également sont rejetées au fur et à mesure en pratiquant. C'est-à-dire que ça existe toujours, mais on n'en est plus tributaire. Et ce nettoyage est opéré tout le temps. C'est-à-dire que, étant opéré, on parlera de vertus qui enlèvent le corps. Ça ne subit pas de dépréciation. Par contre, si on vient dans le cycle des six fois, qu'un tel meurt respecté, on lui fait une statue équestre, alors que sa vie a été comme ça pendant la guerre, et que, bon, il a, avec sa femme, bon, il a commis des trucs moyens, pas très beaux, pas très beaux, mais il s'en sort bien, parce que il meurt, il est honoré, on parle de lui dans les bouquins après, une statue équestre. Mais, non, les gens vont se dire quoi, qu'il a bien fini sa vie. Les gens ne voient pas ce qu'il en est maintenant. Mais, ce qui est sûr, c'est que, tous les actes, lui colle à la peau, il ne pourra jamais s'en départir. Jamais. Or, il n'a jamais été acteur. Il a toujours été celui qui reçoit les actes. Il n'y a pas, dans les six voies, d'être vivant. Du reste, on va arrêter bientôt parce que c'est compliqué, mais Nichiren dit, à propos de la sagesse du Bouddha, il dit, dans le chapitre Oben, on dit, la sagesse des éveillés est infiniment profonde et incommensurable. Donc, Nichiren dit, qu'est-ce donc que cette sagesse incommensurable et infiniment profonde? Et il répond en disant, cette sagesse, c'est réaliser l'effet des 10 insides de l'aspect réel comme étant la substance fondamentale de la loi. Mais l'effet des 10 insides de l'aspect réel, c'est quoi? Ça veut dire que le corps est un effet, la pensée est un effet, et que les 10 nausées sont des effets, dont on ne sort jamais. Le corps est, quoi? La pensée s'impose. C'est ça la sagesse de l'éveillé, c'est réaliser ça. Nikken Shannin disait un jour que tous les saints ont rejeté la vie qu'ils subissaient depuis un temps infini. Et rejeter la vie qu'on subit depuis un passé infini, comment on fait si on pratique pas? Vu que tout s'impose.
Le corps s'impose.
Donc, rejeter la vie qu'on subit depuis un passé infini, ça demande un putain d'effort. Quand même. Vu que tout est instantané. T'as pas le temps de prendre de l'élan pour courir. Vu que tout s'impose à chaque instant. Tu te mets où pour arrêter ce qui s'impose à chaque instant? À part t'éveiller. Ce n'est que l'éveil. Ça, c'est la pratique. Faire apparaître le Bouddha physiquement. Il n'y a que ça. Donc, c'est la raison pour laquelle ce grand la loi dit, qu'on va arrêter là. Bien que nous soyons tous des existences dotées des 10 mondes, nous nous trouvons immergés dans les 6 mondes que sont l'enfer, l'avidité, l'animalité, la colère, l'être humain et le ciel, selon les conditions et en particulier à cause du karma que nous avons créé dans le passé. Une telle vie ne peut pas être considérée comme respectable. Tout ce qui apparaît ne peut pas être considéré comme respectable, vu que ce qui naît des causes et des conditions n'a pas en lui le principe de son existence. Par contre, dit-il, votre vie devient vraiment respectable à partir du moment où vous recevez l'enseignement du Dai Shonin et le pratiquez. À ce moment-là, votre propre corps, le corps de chair que vos parents vous ont légué, s'évanouit au profit du corps de la loi que vous pratiquez matin et soir. C'est à ce moment-là que vous devenez quelqu'un de vivant. C'est quand le corps de chair, qui n'est qu'un effet consécutif, est remplacé par le corps de la loi en pratiquant matin et soir. Donc, Shakyamuni appellera ses disciples Ananda le vivant, Shubhuti le vivant, Kashyapa le vivant, parce que dans les six voies, il n'y a pas d'être vivant. Mesdames et messieurs, on arrête là?
Il me semble que le karma, c'est une voie de la pensée.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est pas...
c'est plus de l'interprétation, quelque part.
Mais la pensée n'est pas un acte.
Oui, mais c'est un effet.
Oui.
Cet effet-là, c'est quelque part que l'interprète qui arrive.
C'est pire que l'interprétation. Bon, ben, alors là, une dernière, quelqu'un a insisté, hein. Moi, je suis pas du genre à pousser là.
Oui, j'allais le dire.
Je suis pas du genre à exagérer.
Oui.
Mais.
C'est que l'interprétation.
Non, c'est pire que ça.
Oui.
Non, c'est pire que ça.
Oui.
Donc, Kant dit, en réalité, la représentation de toutes les choses n'est que la représentation de notre propre état intérieur. Donc, on ne voit pas les choses, on voit notre état. C'est pas qu'on interprète, c'est qu'on masque. Interpréter, c'est mal voir un truc, ou le voir un peu de travers. Là, on ne le voit même pas. On masque la chose. C'est notre état qui fait que, toutefois, on disait, si Brigitte sera à poil de la salle de bain, son lapin, il s'en fout. Mais si c'est le voisin qui la voit, il va dire, ouais, putain, un coup à tirer. Pourtant, elle, c'est la même. Le lapin voit un truc, et l'autre à côté, il verra autre chose.
Bonjour, oui.
Autrement dit, c'est toujours le corps qui fait la perception de l'objet.
Quand... Il y a le corps du lapin.
Merlot. Mesdames, s'il vous plaît. Non, on déconne les conneries, mais c'est pas chez nous. Allez, encore ce qu'on prend 3 minutes. Merleau-Ponty dit, voir, c'est ne pas voir. Voir autrui, c'est essentiellement voir mon corps comme objet. Donc c'est plus qu'une interprétation. Tu vois ton corps. Pas celui de l'autre. Et Merleau-Ponty dit encore, là où je dis que je vois autrui, en vérité, il arrive surtout que j'objective mon corps. Quand on dit voir autrui, c'est objectiver son propre corps. Et on terminera sur Nietzsche, quand même, qui dit, le sujet est seul démontrable. Hypothèse qu'il n'existe que des sujets. Que l'objet n'est qu'une sorte d'action de sujet sur des sujets. Autrement dit, un mode du sujet. Ce qui veut dire que l'objet, la matière, ce que vous percevez, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce ne sont que des sujets l'un par rapport à l'autre, et ce qu'on appelle matière ou objet perçu n'est qu'un mode du sujet percevant, mais qu'il n'y a que des sujets. Or, c'est ça. Il n'y a partout que la une pensée de l'avidité, la colère, la stupidité, la joie, et nous on mettra des noms dessus en projetant notre propre corps, sans voir la réalité. C'est comme ça. C'est comme ça.
Et tout ce qui vit,
c'est la même
chose. Ça peut nous aider.
Tu verras. Au moins de la mort, la vie fleurit.
Le minéral.
Bon, messieurs, dames, on arrête là. Maintenant, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc, on s'est arrêté. Chacun.
T'as la page, toi.
Regarde. Là, je m'arrête là. Messieurs, dames, à plus.
Il n'y a pas de problème.
Et maintenant,
c'est quoi là?